BFM Business et CB News présentent Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com. Au programme aujourd'hui, l'union des métiers des influenceurs et des créateurs de contenu. À quoi sert-elle exactement? Quel avenir pour le secteur? Pour en parler aujourd'hui, on reçoit Gallo Diallo, fondateur de l'agence Smile Conseil et vice-président de cette fédération. Les Français s'intéressent de plus en plus à l'actualité. C'est le baromètre annuel de Kantar avec La Croix et Winepoint que nous révélera Julien Casqui dans son journal tout à l'heure. Et puis pour terminer, la question Hebdo.com de la semaine. Avez-vous été convaincu par la communication des boulangers et leurs revendications face au coût de l'énergie? Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Voilà le programme Hebdo.com, c'est parti, ça commence.
BFM Business, Hebdo.com, l'invité média.
Cette semaine, nous allons donc parler de l'UMIC, l'Union des métiers des influenceurs et des créateurs de contenu. Elle a été créée il y a une semaine et a pour but d'encadrer la profession suite aux nombreuses polémiques, aux nombreux scandales qu'elle a pu générer. Et comme chaque semaine, je suis accompagnée de Frédéric Roy, rédacteur en chef CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Rebecca.
Et aujourd'hui, on retrouvera Julien Casqui pour son questionnaire en fin d'interview. Et on accueille Gallo Diallo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de l'agence de marketing d'influence Smile Conseil.
C'est ça.
Et vous êtes le vice-président de cette fédération, de l'UMIC.
Exactement.
L'UMIC, c'est une trentaine d'agences, c'est 300 influenceurs adhérents. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour la profession d'avoir une fédération aujourd'hui?
Déjà, je pense que c'est pour une industrie aussi impactante et grande que l'industrie de l'influence, c'est important d'avoir une organisation. Déjà, on le faisait chacun de notre côté de l'autorégulation au sein de nos agences. Mais aujourd'hui, c'est un marché qui est très grand avec plus de 150 000 créateurs de contenu. Donc, il fallait qu'on s'organise déjà pour parler d'une voix vis-à-vis des
d'avoir un porte-parole, en fait.
Exactement, vis-à-vis des médias, de parler aussi d'une voix vis-à-vis des pouvoirs publics, d'accompagner les créateurs de contenu dans leurs droits et leurs devoirs pour qu'ils puissent les connaître, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on a énormément de lois qui ne sont pas toujours appliquées et qui ne sont pas toujours connues de ces créateurs de contenu. Et voilà, c'est aussi mettre en place des actions et des outils pédagogiques pour justement promouvoir une influence responsable.
Et par exemple, donc vous êtes fondateur de Smile Conseil, une énorme agence d'influenceurs et de créateurs de contenu.
Ouais, je préfère les termes créateurs de contenu.
On va y revenir sur cette subtilité. Ouais. Mais justement, en tant qu'agent, qu'est-ce que ça peut changer côté profession? Parce que là, vous êtes vice-président, mais par exemple, pour Smile, qu'est-ce que ça peut changer d'avoir une fédération?
Déjà, parler d'une voix avec tout le secteur, pouvoir justement échanger, parce qu'on n'a pas souvent les uns en face des autres en concurrence, et là en fait on est ensemble justement pour réguler, s'autoréguler, pour développer un secteur qui est nouveau, même si ça fait pour plusieurs gens dans la fédération plus d'une dizaine d'années qu'on est là, mais ça va vraiment être le fait de pouvoir impacter positivement notre secteur et pouvoir justement se développer et parler d'une voix, et ensemble on est toujours beaucoup plus fort et c'est plus vertueux.
Et de crédibiliser aussi peut-être un petit peu la profession.
Finalement, on a été entaché par certaines dérives, mais la profession est crédible et a toujours été crédible au vu de l'impact qu'on peut avoir vis-à-vis déjà des TPE, PME, au vu de l'impact social qu'on peut avoir avec toutes les associations qu'on accompagne et avec toutes les campagnes qu'on peut réaliser, et au vu de l'impact aussi culturel qu'on a sur la jeunesse.
Et financier, aujourd'hui, financier,
mais pas que. Aujourd'hui, quand on parle du secteur de l'influence et des créateurs de contenu, c'est une très grande industrie qui impacte beaucoup de domaines, que ce soit économique, social et culturel.
Et alors, qu'en est-il pour les créateurs de contenu, justement? Qu'est-ce que ça change qu'ils n'adhèrent pas ou qu'ils adhèrent, justement? C'est quoi? Ça veut dire quoi exactement?
Le fait d'adhérer, ça va permettre d'avoir un accompagnement. C'est pas que pour les créateurs de contenu, c'est aussi pour les plateformes, les agences, les agents et les créateurs de contenu. Donc, ça nous permet de pouvoir, donc, déjà adhérer à une charte de bonne conduite qu'on est en train de réaliser, d'aussi d'adhérer au règlement intérieur de la fédération. Ça nous permet aussi de délimiter et de permettre de dire, voilà, aujourd'hui on a des créateurs de contenu qui sont soucieux d'une influence responsable et qui sont résidents fiscaux européens pour les créateurs de contenu et pour les agences résidentes et externes françaises.
Donc je précise que de résider à Dubaï, ça marche pas, c'est plus possible.
Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Et c'est important qu'on prenne nos responsabilités et que chacun, on essaie de mettre notre pierre à l'édifice au développement de ce secteur qui est ultra vertueux.
Et l'idée, c'est de recruter. Alors là, il y a 30 agences,
une trentaine d'agences
trentaine au départ. Ouais. L'idée, c'est d'essayer de grandir, non pas pour grandir, mais pour
Avoir plus de moyens et pouvoir encore plus se développer, et mener encore plus d'actions et accompagner encore plus de créateurs de contenu et d'agences et d'acteurs de l'influence soucieuses d'une influence responsable.
On va prendre un exemple concret. Donc, on l'a dit, cette fédération a été créée suite à de nombreux scandales encore un exemple cette semaine d'ailleurs avec le couple Blatta qui est accusé d'avoir fait la promotion de pratiques trompeuses de trading de crypto-monnaie. Là par exemple, Lumic, comment elle se positionne sur cette affaire-là?
Déjà, Blatta Marc Blatta du coup et tous ceux qui sont dans ce cas de figure ne pourraient pas adhérer à Lumic parce qu'ils ne sont pas en France déjà. Et ils ne sont pas du coup résidents français. Donc, nous, ça nous permet également de pouvoir mettre en avant des créateurs de contenu justement qui connaissent les règles, leurs droits et leurs devoirs et qui sont soucieux de bien faire les choses. Je pense que de ce qu'on parle sur certains influenceurs à Dubaï et les dérives. On parle vraiment d'une minorité, encore une fois, les créateurs de contenu, 150 000 personnes.
Et qui fait beaucoup de bruit,
énormément de bruit et qui fait beaucoup de mal, ouais. Et justement, qui fait beaucoup de mal. Et c'est là où, justement, c'est important, même pour les consommateurs, pour les pouvoirs publics, pour les marques, les institutions, de savoir où se diriger, de savoir qui fait quoi et de savoir qui se place où dans cet écosystème. Et nous, on est très loin de ce qui se fait dans ces dérives et dans ces escroqueries. Et encore une fois, je fais bien la distinction entre créateurs de contenu et influenceurs. On a certains influenceurs qui se sont fait connaître du coup en passant par des téléréalités et qui sont suivis pour suivre leur quotidien. Moi, je vais parler pour ma part, Smaël Conseil, et c'est le cas pour grand nombre de gens.
Mais Lumic réunit les deux quand même.
Comment?
Lumic réunit les deux.
Lumic relie les deux, mais là aujourd'hui, je vais vraiment faire une distinction par rapport au fait que on a aussi énormément de créateurs de contenu qui sont juste des passionnés de contenu, que ce soit dans la pâtisserie, la danse, que ce soit dans peu importe le bricolage. On voit aussi des carrières. Il y a une personne qui est boueur, qui a plus de 3 millions d'abonnés, qui raconte son quotidien sur TikTok. C'est des gens qui sont nés du digital, qui partagent du contenu autour d'une passion, qui fédèrent une communauté et qui sont loin de toutes ces escroqueries. Ils ont un modèle économique qui est sain, ils se développent de manière impactante et c'est aux antipodes de ce qui peut se passer. Et aujourd'hui, il faudrait faire attention à ne pas aussi
zoomer sur les
dérives.
Il faut en parler
et les lanceurs d'alerte sont très importants les actions en justice sont très importantes contre les dérives, justement pour que les acteurs sérieux ne soient pas impactés par les dérives.
Autre actualité cette semaine, la DGCCR, Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, a sorti un rapport. 6 influenceurs sur 10 n'ont pas respecté la loi à travers leurs différentes promotions rapidement. Est-ce qu'avec la création de Lumic, c'est un chiffre qui va changer?
Okay. Déjà, j'en tirerai pas une conclusion aussi directe parce qu'ils ont interrogé que 60 créateurs de contenu. Je préfère plus me référer à l'audit qu'a fait la RPP sur plus de 6000 créateurs de contenu et plus de 30 000 contenus analysés qui dit que 83% de ces personnes et de ces contenus expliquent leur intention commerciale et sont respectueuses des règles du coup de publicité. Donc aujourd'hui, c'est difficile de tirer des conclusions. Par contre, la DGCCRF fait un travail monstrueux. Je pense qu'elle manque de moyens parce que depuis 2021, c'est juste 60 procédures ouvertes et je pense qu'on a besoin de moyens pour justement faire respecter les lois et pour auditer aussi beaucoup plus de personnes, pour contrôler beaucoup plus de personnes.
Smile accompagne plein de talents comme Just Riyad, Crazy Sally. Ouais. Vous avez collaboré avec Prime Video, LVMH, Gorillaz, Kinder ou encore Snapchat. Comment faire mieux en 2023?
Déjà, on a une volonté de se rapprocher de ce qu'on appelle l'edutainment, de l'information. Donc, on a envie de faire du contenu entre guillemets plus utile et faire du contenu plus long. Donc c'est pour ça qu'on se rapproche énormément des plateformes comme Prime, Amazon, comme Disney Plus et comme Netflix pour franchir un next step. Et là on a commencé à mettre cette première brique avec le film que Just Riyad incarne, qui sort le 22 février, qui s'appelle À la belle étoile. Donc il incarne le rôle d'un pâtissier qui a une enfance difficile mais qui est un génie de la pâtisserie, qui sera dans toutes les salles en France le 22 février 2023.
Bel exemple de beau parcours. Pour terminer cette interview, on accueille notre journaliste Julien Casqui pour son questionnaire. Bonjour Julien.
Bonjour Rebecca.
Alors, c'est 10 questions en rafale.
Ok.
2 minutes. On peut lancer le chrono ?
Allez, c'est parti.
On lance le chrono, c'est parti.
Gallo Diallo, votre réseau social préféré ?
Insta.
Le matin, comment vous informez-vous ?
Twitter.
Votre influenceur ou influenceuse préférée?
Ah là, vous me pouvez. Je dirais Coluche.
Coluche?
Ouais.
TF1 ou Netflix?
Netflix.
Hanouna ou Yann Barthès?
Joker.
Pas de Joker, hein, cette émission.
Joker.
Booba ou Magali Berda?
C'est
Booba.
Dur. Hein.
Booba? Booba. Pourquoi ?
De par le fait qu'on a beaucoup de gens en commun et j'ai écouté toute mon adolescence. Même si je connais Magali Berda. Mais...
La personne qui vous inspire le plus dans le business ?
Victor Newman.
Ah ouais ?
Ouais.
C'est qui, vous pouvez rappeler ?
C'est un personnage dans Les Feux de l'amour.
3 ingrédients pour un bon contenu sur les réseaux sociaux ?
Authenticité, créativité et régularité.
Votre rêve le plus fou aujourd'hui?
C'est trop utopiste, mais...
S'il y en a un.
Dans le business.
Dans le business.
Une collaboration de vos rêves, par exemple.
Collaboration de mes rêves. Franchement, je réalise déjà mes rêves.
Belle réponse.
Finissez cette phrase. Un bon influenceur, c'est quelqu'un qui...
est conscient de l'impact qu'il a.
Rebecca?
Et puis pour terminer, est-ce qu'on aurait oublié de vous poser une question pendant cette interview ? Si oui, laquelle ?
Non, je mens, très clair, très...
On a été à l'essentiel, on n'a rien oublié.
L'essentiel, rien oublié.
Bon bah super, merci beaucoup. Merci. Gallo Diallo. Vous êtes vice-président de l'UMIC et fondateur de l'agence Smile Conseil. C'est parti pour le journal de Julien Casqui.
BFM Business, Hebdo.com, le JT de la com.
Et on commence ce journal avec une très bonne nouvelle. Les Français s'intéressent de plus en plus à l'actualité.
C'est ce que nous dit le dernier baromètre La Croix, en partenariat avec Kantar et Winepoint, avec la guerre en Ukraine, le Covid et bien sûr l'élection présidentielle. Ils ont consommé plus d'informations en 2022. 4 Français sur 10 se disent plus intéressés par l'actualité qu'avant. Pour s'informer, les médias traditionnels sont plébiscités, les journaux télé, la radio et les chaînes d'infos en continu. Enfin, ils sont majoritairement critiques envers l'information qui circule sur les réseaux sociaux.
Après la santé, l'industrie, le transport, l'intelligence artificielle s'attaque à la création publicitaire.
Et oui, puisque la marque Martini lance sa campagne d'affichage conçue de A à Z en une minute seulement par de l'intelligence artificielle et plus précisément par le logiciel Midjourney qui crée des images à partir de mots. Midjourney a donc imaginé 9 visuels représentant un verre de Martini avec autour les ingrédients qui composent l'alcool. Martini devient donc la première marque de spiritueux à utiliser de l'intelligence artificielle dans une campagne de pub.
Xavier Niel persiste et signe. Il est officiellement candidat pour reprendre la fréquence de M6.
Son offre de reprise a été retenue par l'Arcom, tout comme celle de M6, même si elle a peu de chances d'aboutir. Elle vise à déstabiliser les grands groupes de télé. Avec son offre, Xavier Niel veut renforcer la création patrimoniale française, l'information et l'offre musicale. Il a d'ores et déjà fait savoir qu'en cas d'échec, il ne présentera pas de candidature en 2025, date de renouvellement d'autres fréquences TNT. European Digital Group, qui fédère notamment les spécialistes de la com digitale, rachète l'agence SemantiWeb auprès de Webedia. SemantiWeb est l'expert de l'écoute des conversations sur les réseaux sociaux. L'entreprise réalise 10 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Et le groupe souhaite réaliser 8 à 10 nouvelles acquisitions par an. TF1 dévoile ses premières offres commerciales pour la prochaine Coupe du Monde de rugby.
TF1 propose un montant de 2,3 millions d'euros pour être un des sponsors sur les 20 matchs diffusés et 400 000 euros par annonceur le jour du match sur mytf1.fr. La compétition commencera sur TF1 avec le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande le vendredi 8 septembre.
Et puis, comme chaque semaine, on termine par notre campagne chouchou, par la campagne préférée d'Hebdocom de la semaine. Et pour moi, ça m'a paru un peu comme une évidence cette semaine, c'est celle de Cartier.
Ouais, je sais que vous aimez bien le cinéma, Rebecca. Bah, je vous emmène sur le Pont des Arts à Paris avec deux icônes de générations différentes. L'acteur oscarisé Rami Malek sur le pont donc croise toutes les Catherine Deneuve de sa vie lorsqu'elle avait 20 ans jusqu'à maintenant. Cette pub d'une minute signée Guy Ritchie, le réalisateur de Snatch, célèbre la Monk Tank de Cartier, se veut un hommage et à la nouvelle vague. Extrait. Et cette campagne a été imaginée par Publicis Luxe et produite par la boîte de production 75.
Oh, moi j'adore. Elle est trop belle, Catherine Deneuve.
Ah, c'est un très très beau film. C'est faut être Cartier pour faire des films comme ça, mais c'est vrai que c'est très très émouvant de la voir à tous ses âges.
Merci Julien pour le journal. C'est parti pour le Focuscom.
BFM Business, Hebdocom, le Focuscom.
Le gouvernement et la Confédération nationale des boulangers-pâtissiers a déclenché des aides pour accompagner les artisans face à la hausse des coûts des matières premières et du prix de l'énergie. Pourtant, de nombreux collectifs de boulangers ont pris la parole en manifestant sur les médias et sur les réseaux sociaux en demandant la mise en place d'un bouclier tarifaire face à cette augmentation. Avez-vous été convaincu par la façon dont ont communiqué les boulangers leurs revendications? Et la réponse est oui, un large oui à 81%. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Charlotte Lazimi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice associée du pôle influence chez Havas. Jean-Xavier Arnaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes associée chez Tilder. Charlotte, je commence avec vous. C'est un résultat très tranché, 81%. Quels ont été les éléments clés, les exemples des prises de parole qui donnent ce résultat aujourd'hui?
Il y a plusieurs choses. D'abord, c'était finalement prévisible qu'il y ait ce type de réaction, en tout cas de la part des boulangers, puisqu'on avait une hausse des matières premières et aussi une hausse du coût de l'énergie qui était tout à fait prévisible. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'on n'ait pas prévu cette communication, en tout cas que les pouvoirs publics et que même les élus étaient surpris par cette communication qui vient avec les réseaux sociaux. C'est assez intéressant puisque c'était déjà le cas avec les gilets jaunes, c'était déjà le cas aussi pendant la grève de décembre avec la SNCF. Et ce qui est extrêmement important, c'est qu'il y a un message qui est très clair, c'est qu'il y a un message qui est très sincère de la part des boulangers, et c'est qu'il y a un message qui est multicanal, réseaux sociaux, manifestations, avec un présentiel et donc un engagement qui est extrêmement fort et qui va frapper, qui va y avoir une image qui va être très forte, et une présence aussi dans les médias. Et on a aussi un porte-parole qui est un porte-parole incarné, avec une vraie sincérité. Et ça, c'est pour ça que le sondage que vous avez réalisé est très intéressant. Les Français ne s'y trompent pas, et forcément, ils y adhèrent.
Jean-Xavier.
Le résultat, il est très très clair. Il est très très clair aussi en raison de l'identité, on va dire, des personnes concernées, à savoir les boulangers. Là, on parle du quotidien des Français.
Il y a un attachement à la baguette.
Très concret. Si on prend les autres types de produits concernés par l'inflation, par tout ce qui va avec les prix de l'énergie. On ne connaît pas le producteur de ce qu'on achète dans un magasin de grande distribution. On connaît son boulanger, et évidemment. Par ailleurs, les boulangers ne font pas partie, pour les Français, des professions qui sont habituées à se plaindre, à revendiquer. Le fait qu'elles le fassent là et qu'elles le fassent avec autant de force donne évidemment une forme de légitimité à leur message qui se traduit dans les résultats qu'on a aujourd'hui du sondage qu'a fait Harris Interactive.
C'est possible que ce soit par esprit de contradiction avec Emmanuel Macron?
Bon, esprit de contradiction, je ne sais pas. En tout cas, je pense que... Il y a un décalage entre la perception par les Français du message simple, vraiment simple, je pense, des boulangers, concrètement, tout ça est trop cher, on ne s'y retrouve plus économiquement. Message encore une fois qui est simple et rare, donc crédible, et une pédagogie de la part d'Emmanuel Macron et de la majorité qui pour le coup est beaucoup plus complexe, sans doute trop sophistiquée, et qui va parfois même sur des arguments qui émotionnellement sont difficilement audibles. Moi j'ai entendu des gens de la majorité dire en plateau il n'y aura pas de bouclier tarifaire, donc vous n'aurez entre guillemets qu'à hausser vos prix. Ce qui est très compliqué à défendre comme message, et c'est pourtant un message qui a été développé. On peut entendre évidemment qu'il y ait des raisons rationnelles de ne pas mettre en place le bouclier tarifaire qui a été réclamé. D'autres mesures ont par ailleurs été accordées aux boulangers. Mais la communication du gouvernement a été trop complexe face à quelque chose qui est extrêmement simple et émotionnellement assez puissant de la part des boulangers.
Je pose la question aux deux, les hommes politiques qui vont pas chez le boulanger, parce que c'est à se demander, parce que comme vous le disiez Charlotte, le truc on l'a vu venir, donc si nous on l'a vu venir, normalement les ministres concernés l'ont vu venir aussi.
Ça montre qu'il y a une déconnexion en tout cas de la base et finalement qu'il y a une gestion dans l'urgence en fait de la part des élus, de la part des pouvoirs publics aussi. Ce qui est intéressant aussi dans le mode de communication dont on se parle aujourd'hui, c'est que finalement il s'adresse directement aux Français avec les codes des influenceurs. On voit que cette communication directe aux Français, Emmanuel Macron en est friand, mais aussi d'autres personnalités du monde politique. Et ça, c'est assez majeur, et ça ringardise et ça délégitime aussi tous les pouvoirs intermédiaires et les syndicats. Et ce qui fait que tout le monde, les élus, toutes ces personnes qui sont censées représenter les Français, sont devancées par des boulangers qui s'imposent en fait dans un contexte médiatique qui aurait dû être complètement monopolisé par le sujet des retraites. Et ils ont compris qu'il fallait être visible, que pour être visible, il y avait les réseaux sociaux et il y avait aussi la présence dans les médias.
Il y a quelque chose de très vrai dans ce que vous dites tout à l'heure. Vous mentionniez les gilets jaunes. Il y a quelque chose, il y a un lien qu'on peut faire entre les deux situations, au sens où le syndicat qui représente les boulangers est totalement débordé, et un peu à la manière des gilets jaunes avec les grands syndicats français il y a maintenant 3 ans, on a des collectifs autonomes de cette représentativité classique de la profession qui ont émergé et qui ont pris la main sur la séquence bien plus que la représentation classique de la profession. C'est assez particulier, et vous disiez à l'instant que on a les pouvoirs, les corps intermédiaires entre guillemets, qui sont un peu bousculés par cette communication et par cette situation. Je trouve que c'est vraiment très représentatif, peut-être un peu paradoxal, à un moment où finalement, dans le cadre de la réforme des retraites, les syndicats semblent, pour l'instant en tout cas sur le début de conflit, on va dire, réussir à tenir un peu les choses.
Ce que vous dites tous les deux aujourd'hui, ça me rappelle un peu ce qu'on disait la semaine dernière quand on a décrypté la communication du gouvernement sur la réforme des retraites. On essayait de tirer un peu les ficelles et comprendre le pourquoi du comment ça aurait été mieux surtout, et on disait plus de pédagogie et plus de réseaux sociaux. C'est un peu ce qu'on est en train de redire aujourd'hui, c'est toujours la même chose.
Moi je dirais pas plus de pédagogie, parce que je pense que le gouvernement fait l'effort de la pédagogie. Je pense en revanche que le gouvernement n'a pas trouvé pour l'instant des arguments simples.
C'est les arguments ou les canaux en fait?
Il y a les canaux, les arguments, il y a plus d'anticipation, et c'est vrai que c'est plus simple parce que vous le disiez, il y a un message qui est extrêmement simple de la part des boulangers, alors que la situation est extrêmement complexe. Donc c'est une difficulté, mais il y a une déconnexion, et peut-être que la communication c'est aussi le lien. Et c'est aussi l'échange, cette déconnexion, elle est extrêmement importante du point de vue des pouvoirs publics et du point de vue de l'ensemble des représentants de la nation, à la fois les syndicats qui représentent les salariés, à la fois les hommes et les femmes politiques qui eux aussi sont déconnectés et eux aussi essayent de rattraper le train et de remonter dans le train.
Mais je pense que vous avez raison de lier les deux choses. En fait, dans les deux cas, on a un message simple de la part des opposants au gouvernement et une pédagogie qui est dense, vraiment dense, mais complexe de la part du gouvernement. Forcément, dans l'opinion, la bataille, elle se gagne.
Et les réseaux sociaux qui reviennent. Toujours.
Oui, bien sûr. Mais je pense évidemment que le poids qu'ont les réseaux sociaux, notamment côté boulanger, il est réel. Après, je crois vraiment qu'aujourd'hui, il y a un problème de fond et de simplicité du fond du côté de l'argumentaire gouvernemental dans les deux cas de figure.
Et un sujet aussi d'incarnation, là, ce qui est aussi très fort, c'est qu'on a une incarnation qui est forte, une incarnation qui est très sincère, et donc il y a une identification qui est claire avec un message et une personne, un collectif, un ou deux porte-parole pour ce collectif. C'est vrai que si la parole, elle est diffusée par plusieurs personnalités, par plusieurs porte-paroles, et elle est peut-être pas si bien portée, cette parole.
Merci beaucoup Charlotte Lazzini, vous êtes directrice associée du pôle Influence chez Havas Paris. Merci Jean-Xavier Arnaud, vous êtes associée chez Tilder. Et puis comme d'habitude, on termine avec la chronique de Frédéric Roy.
BFM Business, Hebdo.com, la chronique média.
Frédéric, j'ai l'impression que vous avez enfilé votre robe d'avocat aujourd'hui.
Non, Rebecca, c'est juste un pull noir et une chemise blanche. Mais c'est vrai que je me fais le défenseur, pas de n'importe qui, de vous, de Julien, de nous tous les journalistes français. Oui, je sais, c'est un peu présomptueux, mais Julien le disait tout à l'heure, il nous faisait part des résultats du fameux baromètre du journal La Croix. Tous les ans, à la même époque, le verdict tombe sur les jugements des Français sur le travail des journalistes et de leur support. Et avouons-le, le verdict, c'est pas fameux. Nous ne sommes pas assez indépendants, nous répétons toujours la même chose, nous ne sommes pas toujours très fiables, nous donnons trop d'importance à des informations qui n'en ont pas. Il n'y a pas grand-chose à sauver, quoi.
Pourtant, moi, j'étais hyper contente parce que on avait l'impression que les Français s'intéressent de plus en plus à l'actualité dans ce baromètre.
Mais oui, mais il faut dire qu'en même temps, on leur en fournit pas mal, hein, entre la crise sanitaire qui n'en finit pas, la guerre en Ukraine, les élections, il y a de quoi s'informer. Mais voilà, en fait, plus les Français consomment de l'info, plus ça les fatigue. Ils sont 51% à ressentir de la lassitude par rapport à l'actualité, nous dit cette enquête. Et pourquoi cela ? Parce que, disent-ils, on parle toujours des mêmes sujets. Certains disent même qu'ils sont un peu dépassés par la quantité d'informations qu'on leur fournit. Pardon, mais c'est un tout petit peu contradictoire. D'autant que, quand La Croix leur demande de quel sujet les médias ont trop parlé, le top 3 est formé par la Coupe du Monde de foot, la mort de la reine d'Angleterre et la crise de carburant. Moi, je veux bien, mais quand on regarde les audiences du Mondial ou celles de l'enterrement d'Elisabeth, c'est pas exactement l'idée que je me fais de la lassitude informationnelle, ou alors c'est du majocisme.
Il n'y a donc plus rien à sauver dans le travail de la presse.
Si, heureusement. Mais si la méfiance est de mise, les Français accordent quand même un relatif satisfecit à la couverture de la guerre en Ukraine. Ils sont même prêts à reconnaître que le traitement du changement climatique est meilleur qu'avant. C'est pas non plus des grosses félicitations. Ils sont encore plus nombreux à trouver que c'est pas bien que ceux qui trouvent que c'est bien. Mais bon, on va dire que c'est pas si mal, et je vais prendre les choses du bon côté et dire que l'on ne châtie bien que ce que l'on aime bien. Il faut y croire, il faut s'y remettre, et puis essayer de faire mieux pour le prochain baromètre.
Moi, j'y crois complètement. Merci Frédéric Croix, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, et bien sûr, en replay sur toutes nos plateformes. Très très bon week-end sur BFM Business.
Hebdo.com sur BFM Business.